citadins, aux villageois, aux professionnels, à tout le monde?
Tout le monde, toute la population entière.
Où est-ce qu'on peut faire ce bilan de santé? Est-ce qu'on peut se rendre chez l'infirmier chez qui on va toutefois qu'on se sent mal? Ou il faut aller à l'hôpital dans un grand centre?
Normalement, ce qui est recommandé, c'est de se retrouver dans un centre hospitalier universitaire, pour employer le lexique francophone. Dans les pays francophones, je pense que nous avons des centres hospitaliers universitaires. Nous avons des centres hospitaliers régionaux. N'importe en fait quel centre, je dirais, de santé communautaire ou urbain, clinique privée, qui a en son sein un personnel qui puisse pratiquer la médecine générale, c'est possible. Dans tout endroit où se trouve un médecin général ou un infirmier, il est possible de faire un bilan de santé annuel.
Ça doit coûter cher.
Je l'affirme, ce n'est pas gratuit. En Afrique, surtout que dans certains pays, même avec l'assurance, il faut encore payer pour le bilan annuel de santé. Mais nous avons pensé à cette solution. Voilà pourquoi, au sein des SCB Systems, nous avons créé l'application Apollo.
L'application Apollo qui permet de faire quoi?
L'application Apollo, en fait, te permet de vulgariser le bilan de santé. Avec Apollo, par exemple, nous permettrons de réduire tout le coût du bilan de santé en employant une économie d'échelle. C'est-à-dire, nous pouvons aller vers une clinique ou un médecin et lui dire, nous allons vous apporter like, 1 million de patients par an sur qui vous devez performer le bilan de santé annuel. Like, provide the service.
Pour fournir les services.
Yeah, merci, yeah, fournir les services. Donc, avec cette approche, si le bilan de santé coûtait normalement 10 000 francs, parce que le prix varie en 10 000 et 100 000 dans certains pays francophones. Donc, si normalement il devait charger 10 000 francs pour 20 patients par an, parce que c'est vraiment pas une pratique répandue en Afrique, on lui dira, nous apporterons 1 million de personnes, donc il serait préférable que tu fasses ça juste 1 000 francs. Ce gars peut être OK avec, parce qu'il verra cette entrée de capital.
Vous faites tout ça pour vulgariser le bilan de santé et faire la promotion de la santé en Afrique?
Nous avons une approche pour vulgariser le bilan de santé en Afrique. C'est ce que nous travaillons.
Vous êtes le directeur de CBS Service. Vous avez créé une application pour faire la promotion de la santé en Afrique.
Yes.
C'est un sujet tellement important que nous allons y revenir pour une autre édition de Votre Santé, Votre Avenir. Pour revenir au bilan de santé, est-ce que cette notion est assez familière en Afrique? Est-ce que les Africains font facilement le bilan de santé, même ceux qui ont de l'argent?
Je dirais non, parce qu'en 2018, nous avons fait une recherche qui a prouvé que moins de 2% de la population en Afrique de l'Ouest pratiquait le bilan de santé. C'était vraiment pas courant. Et au ressort, en fait, de notre recherche, nous avons constaté que la majorité des personnes, même des médecins et tout, ils ont pris pour l'habitude de se rendre à l'hôpital lorsque c'est déjà grave. On ne pratique pas la prévention, en fait, en Afrique. Et ça, c'est, je pense que la base de tous nos maux.
Alors que quand c'est déjà grave, parfois ça peut conduire à trop tard.
Yes.
En quelle année vous avez fait cette étude?
En 2018.
Et seulement en Afrique de l'Ouest?
Yeah, en Afrique de l'Ouest.
Est-ce que vous avez une idée du nombre ou bien du taux des personnes qui font régulièrement un bilan de santé dans toute l'Afrique?
Nous n'avons pas spread out. Conduit, n'est-ce pas? Je trouvais le mot en français. Nous n'avons pas, en fait, fait...
Conduit une étude?
Conduit, merci. Conduit l'étude sur l'entièreté de l'Afrique, vu que nous avions comme communauté de base l'Afrique de l'Ouest, et nous avions cherché à pénétrer avec notre nouveau service. Donc, le taux annuel en Afrique, je dirais toujours que c'est vraiment bas. Parce que pour l'Africain lambda, le bilan de santé n'est pas dans sa culture. Donc, je peux prédire que ça sera moins de 10%.
Est-ce que même les Africains qui ont de l'argent ont l'habitude de faire des bilans de santé?
C'est pire, en fait, parce que les Africains qui ont le moyen de faire des bilans de santé n'en font pas. Ils se disent qu'ils sont toujours bien portants et lorsqu'ils auront une maladie, ils pourront immédiatement se soigner. Ils se disent, oh, nous n'avons pas de temps, nous sommes vraiment pris. Nous ne pourrons pas perdre une heure ou une journée de notre temps pour aller juste checker notre statut au niveau de notre santé. Ça, c'est vraiment un problème. Peu de personnes en fait le font. Même certaines personnes qui ont vécu à l'étranger, la diaspora qui se retrouve en Afrique, ne le pratiquent plus. Juste parce qu'ils ne sont pas orientés ou juste qu'ils perdent immédiatement cette habitude-là se retrouvant sur le continent africain.
Est-ce que l'absence d'un bilan de santé contribuerait aussi au taux élevé de mortalité dans les pays africains?
Là, je le confirme. Je suis à 1000%, je dirais, sûr que le plus gros problème de l'Afrique, c'est la prévention. Le bilan de santé est à la base de la prévention. Parce que, je peux vous dire, l'Afrique subsaharienne a que 11% de la population mondiale, mais cette Afrique subsaharienne a 70% des maladies transmissibles et non transmissibles. Ça, c'est vraiment incroyable. La malaria, tout ce genre de maladies, nous pouvons les identifier avec uniquement un bilan de santé. Il faut les identifier à la base.
Identifier ces maladies pour mieux les combattre?
Lorsque ces maladies seront identifiées, on pourra mieux les prévenir, mieux les soigner et réduire le taux d'infection. Notre approche, nous appliquons l'intelligence artificielle pour dégager certaines zones qui seront à risque, que nous pouvons planifier à l'avance des campagnes de vaccination. Lorsque vous ne savez pas, aucune campagne de vaccination ne peut vraiment prospérer. Dites-vous que si dans un village de 1000 personnes, aucune personne n'a déjà été vaccinée ou n'a déjà fait un bilan de santé, nous ne pouvons pas savoir qui souffre de quoi, qui a quoi. Et ça, c'est un très, très grand problème parce qu'on n'arrivera jamais à résoudre un problème sans savoir la cause, la racine en fait. Et le bilan de santé permet de décortiquer cette racine-là.
Merci beaucoup. Nous avons un autre auditeur, Marius Gris, mais il n'a pas dit d'où il écrit. Il se demande si l'ignorance ne contribue pas aussi à l'absence du bilan de santé dans les pays africains.
Je dirais que l'ignorance serait un gros mot, mais je dirais que le manque d'informations et une politique sociale qui privilégie le bilan de santé serait en fait à la base de ce manque-là. Parce que certaines personnes le savent, mais ne le font pas. Certaines personnes ne le savent pas et se disent que c'est déjà coûteux parce que l'Africain lambda cherche à avoir 2 dollars par jour, voire qu'il doit aller dépenser peut-être 10 dollars ou 20 dollars. Donc, c'est dire, mais si je suis bien portant, pourquoi j'irai dépenser de l'argent inutile? Certains considèrent que c'est inutile juste parce que leur niveau social ne leur permet pas d'apprécier la valeur de ce système. Donc, on dira le manque d'information.
Tout en tenant compte de la pauvreté financière des populations africaines, comment est-ce qu'on peut les aider à être sensibilisés sur ce problème?
C'est une très, très belle question. Il faut une politique gouvernementale qui facilitera cela, qui ait une prise en charge. Il faut aussi une réelle implication des organisations internationales. Et tout cela part de la base des données. Il faut arriver à les identifier. Tous ces Africains dans les zones les plus reculées, tous ces Africains qui sont en ville, il faut arriver à les identifier. L'identification est le plus gros problème africain. Lorsque vous aurez identifié toute cette population, vous pourrez personnellement contacter chaque personne, avoir des rendez-vous pour que cette dernière puisse faire le bilan de santé. Il faut une politique gouvernementale. La politique gouvernementale doit être au centre de tout. Il faut une collaboration du gouvernement, de la société privée et des institutions internationales qui faciliteront toute innovation dans le but de vulgariser le bilan de santé et la vaccination accurate, la vaccination précise. Je peux vous rassurer qu'avec un bilan de santé, toute campagne de vaccination pourra atteindre une précision jamais vue auparavant.
Est-ce que les politiques sanitaires, les infrastructures sanitaires, les hôpitaux, le nombre des médecins dans les villes ou dans les villages en Afrique sont favorables à une prise de conscience des populations africaines quant au bilan de santé qu'elles doivent faire de façon régulière?
Je dirais non. Vu que les infrastructures en place peuvent faciliter le bilan de santé, mais l'utilisation de ces infrastructures déjà qui sont à la limite archaïque ne permettent pas à l'individu lambda d'avoir accès et de recevoir un bilan de santé. Vu qu'il y a plusieurs problèmes, il y a le problème culturel, il y a le problème financier et il y a le manque d'informations. Et lorsque le plateau technique n'est pas assez percutant, assez performant, parce que disons que pour un bilan de santé, il faut mobiliser un infirmier, un docteur qui va le performer, qui prendra en moyenne 2 heures et plus. Combien de personnes seront à mesure de recevoir cela, sachant que nous sommes underserved, nous avons moins de médecins disponibles pour la population. Dans les pays développés, nous avons pratiquement 4 médecins pour 1000 habitants. En Afrique, il se trouve que nous avons moins de 1,15 médecins pour 1000 habitants. Donc, vous voyez que nous n'avons que 360 jours. Lorsque nous partons dans un pays développé et nous disons, OK, avec 4 médecins pour 1000 habitants, nous retrouvons à 250 habitants par médecin. Donc, en une année civile de 360, le médecin peut être à mesure de consulter toute personne.
On sait que la plus belle femme au monde ne peut que donner ce qu'elle a. Donc, les populations africaines qui n'ont pas les moyens de se faire un bilan de santé, qu'est-ce qu'elles peuvent quand même faire pour prévenir certaines maladies?
La base serait d'être active, Cette population, je pense qu'elle est déjà assez active. Donc, d'être active, prendre soin de son hygiène, de vérifier la provenance de différents aliments et d'avoir une hygiène publique un peu plus améliorée. Nous avons constaté qu'en Afrique, il y a un peu de laisser aller avec la propreté. Quelqu'un qui vit dans un quartier, il voit qu'il y a une eau stagnante. Il ne sera pas en mesure de chercher à résoudre le problème de cette eau stagnante. Ils seront OK à constater cela chaque jour, à apporter des moustiques, à apporter des maladies.
Pour terminer notre interview, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner aux populations africaines ou aux autorités africaines en rapport avec le bilan de santé?
Le bilan de santé est très, 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 très important et je conseillerais à tout Africain de s'y habituer, d'imprégner cette pratique-là dans son quotidien. Pour un départ, il faut déjà chercher à pratiquer cela une fois par an, même, je dirais, une fois chaque deux années pour être OK pour un pays africain, mais l'esprit du bilan de santé annuel. Il faut s'y imprégner et chercher les nouvelles technologies qui seront en place pour pouvoir faciliter cette activité.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Cheikh.
C'est avec un grand plaisir.
C'était notre discussion avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS System et doctorant en ingénierie management. Nous avons discuté sur l'importance du bilan de santé. À présent, carnet de santé avec Linor Moudou.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA.
Cette semaine, dans Carnet de santé, l'alcoolisme, un problème de santé publique dont on ne parle pas assez. Du plaisir à l'addiction, une experte explique les signes de l'alcoolisme et les mesures à prendre lorsqu'on est concerné. Ensuite, prendriez-vous le vaccin Covid s'il était fabriqué en Afrique? Nous avons vos réactions. Vous l'avez sûrement déjà entendu, le vin rouge est bon pour le cœur. Est-ce vrai ou faux? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'alcool, des millions de personnes en consomment régulièrement pour diverses raisons, telles que marquer une célébration, passer du temps, accompagner un repas, pour décompresser ou tout simplement pour son goût. Mais certaines personnes souffrent d'alcoolisme, une addiction à l'éthanol contenu dans les boissons alcoolisées. L'Organisation mondiale de la santé affirme qu'environ 3,3 millions de personnes dans le monde meurent chaque année des suites de l'usage excessif de l'alcool. Certains signes de l'alcoolisme incluent boire seul ou en secret, stocker de l'alcool dans des endroits improbables, avoir des nausées, transpirer ou trembler lorsqu'on ne boit pas. Selon le rapport 2019 de l'OMS, le Cameroun a été classé deuxième plus grand consommateur d'alcool en Afrique. Il y a 4 ans, le cabinet LV Next Century a relevé que les Camerounais ont consommé en 1 an 660 millions de litres de bière. L'alcoolisme est ainsi devenu un fléau social. Seules quelques rares structures de prise en charge des personnes sous addiction tentent de l'endiguer. Reportage sur place avec notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Au bout d'une ruelle du quartier Cité Sic à Douala, une trentaine de personnes suivent dans les locaux de la fondation Kamsiam les explications de son promoteur sur les enjeux et contraintes d'une prise en charge de sévrage. Le centre offre une thérapie de sévrage d'alcool aux patients internes pour une durée de 3 semaines.
Donc nous travaillons la première semaine à ce que le patient se connaisse, se comprenne. La deuxième semaine, la réinsertion sociale. Qu'est-ce que je vais faire? Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Et la troisième semaine, on a choisi un projet de l'après-sevrage sur lequel on va l'accompagner sur 1 an. Il ne suffit pas de dire à la personne d'arrêter de boire. Il faut poser la question pourquoi elle boit, mais à résoudre le problème qui l'amène à boire.
Les patients en sevrage qui ont accepté de témoigner sans révéler leur identité ont entre 30 et 45 ans. L'addiction à l'alcool est encore un sujet tabou. au Cameroun.
Puis la maman ici chez les marabouts, ça n'allait pas. Bon, elle a dit que ça serait mieux qu'on essaye de ce côté. Puis la famille me repoussait, les amis, tes frères, tout le monde, des amis, Soulard, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as eu, pourquoi tu es devenu comme ça.
Peut-être au matin, on fait sport, après sport, on a bain, après le bain, on prend le petit déjeuner, plus médicaments. Bon, entre-temps, on suit les thérapies ensemble, la formation aussi.
Les premières semaines, les premiers jours, c'est dur parce que l'habitude qu'on a eue à souvent consommer, il y a un manque d'appétit total. Et puis l'environnement, vous êtes nouveau, vous ne captez pas, mais au fil des jours, au fur et à mesure, vous vous habituez. Et puis 3 semaines devient comme 3 jours.
Maintenant, il a beaucoup changé.
Avec un taux de réinsertion sociale appréciable, les pouvoirs publics apportent désormais un soutien à cette fondation sociale et humanitaire, créée en 2004.
C'est l'unique centre qui fait dans la thérapie normale, dans la thérapie concrète. C'est un travail qui doit être encouragé, qui doit être apprécié, parce que cela permet de remettre l'espoir dans les familles.
À Yaoundé, ce pasteur évangélique est l'auteur de l'ouvrage « Tout sur le vin, quand la science et Dieu s'accordent ». Il dit avoir dénombré, il y a 5 ans, environ 60 000 bars dans la seule ville de Yaoundé.
Nous nous sommes dit que le problème, c'est l'enseignement. Vous partez des dangers de l'alcool. C'est ici qu'on a eu des soulards qui n'avaient presque jamais rien fait avec leur argent, qui aujourd'hui ont des foyers stables. C'est un ouvrage qui peut aider beaucoup le gouvernement, pas seulement le gouvernement camerounais, à amener les populations à sortir de l'alcool.
La consommation abusive de l'alcool concerne aussi désormais des jeunes scolarisés au Cameroun.
Esther Wangi Mukara est infirmière en santé mentale et psychologue conseillère. Elle est également PDG et cofondatrice de Nuevo Rehab Facility, spécialisée dans le traitement des troubles liés à la toxicomanie au Kenya. Elle élabore sur les problèmes de l'alcoolisme en Afrique et la prise en charge.
En termes médicaux, nous l'appelons trouble d'abus d'alcool par lequel la vie d'une personne a changé et toutes les caractéristiques peuvent être attribuées à la consommation d'alcool. L'une des raisons qui pousse les gens à consommer de l'alcool lorsqu'ils sont très jeunes est la pression des pairs. Même à un âge précoce, le cerveau est affecté. Par exemple, avec les centres de plaisir du cerveau. Les choses que vous faisiez, qui vous faisaient plaisir, ne le font plus et vous vous tournez à nouveau vers l'alcool pour vous donner cette satisfaction. Lorsque les gens consomment de l'alcool, leur capacité mentale est réduite. Cela peut entraîner des comportements à risque comme la conduite en état d'ébriété et cela peut conduire à un accident de voiture. Ce que nous constatons, c'est que les gens commencent à consommer de l'alcool à titre expérimental parce qu'ils ont vu un ami boire, puis ils ont commencé à boire et c'est rapidement devenu une habitude. Il y a des gens qui ont une prédisposition génétique à être dépendants à l'alcool plus que d'autres et l'alcool est facilement accessible. En tant que membre de famille, la meilleure chose à faire est d'abord de vous renseigner. Qu'est-ce que l'alcoolisme? Pourquoi une personne alcoolique se comporte-t-elle de cette manière? Pourquoi devient-elle violente lorsqu'elle consomme de l'alcool? Mais lorsqu'elles n'ont pas consommé d'alcool, elles ne le sont pas. Une fois que vous avez les informations, vous pouvez leur parler calmement. Parce qu'elles pourraient être dans le déni et ne pas vouloir accepter qu'elles aient un problème. Vous pouvez également demander de l'aide d'une personne professionnelle pour venir vous aider à parler à un être cher. Au Kenya, nous avons Nakata et ils ont une ligne téléphonique gratuite que vous pouvez appeler et vous pourrez parler à un conseiller gratuitement. Mais l'accessibilité aux soins est toujours un très gros défi pour beaucoup de gens. Beaucoup d'entre nous ne sont pas assurés, nous n'avons pas d'assurance médicale. Et pour que vous puissiez traiter quelqu'un avec une dépendance comme l'alcoolisme, il faut beaucoup de ressources. Donc, parce que beaucoup de gens ne sont pas assurés, obtenir cette aide n'est pas facile. Autre chose, et surtout au Kenya et en Afrique, on ne pense pas que ce soit une maladie. Nous pensons que c'est un problème social, que cette personne a dévié de la norme. Vous constaterez que donc la société n'accepte pas que cette personne ait une maladie et qu'elle ait besoin d'être aidée. Ils pensent que c'est un problème qu'ils ont causé eux-mêmes et ils peuvent le résoudre eux-mêmes. La toxicomanie et l'alcoolisme On dit tous qu'il s'agit d'une maladie récurrente et chronique. De nombreuses autres maladies sont également chroniques et récurrentes. Par exemple, lorsque vous parlez de diabète, si vous arrêtez d'utiliser le traitement, votre glycémie peut augmenter. De même, cela se produit avec l'alcoolisme. La maladie elle-même se caractérise par de nombreuses rechutes et elles surviennent parfois parce que la personne n'a pas suivi le traitement qui lui a été prescrit.
L'Afrique travaille avec des partenaires internationaux afin de créer des centres régionaux de fabrication de vaccins dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Rwanda. Les observateurs disent que cette décision pourrait aider à réduire le taux d'hésitation à la vaccination sur le continent. Nous avons demandé si vous seriez plus disposé à prendre un vaccin Covid fabriqué en Afrique. Voici ce que certains d'entre vous ont répondu depuis Lagos au Nigeria.
Quand j'aurai l'opportunité de me faire vacciner, je le ferai. J'attends cette opportunité, le matériel à mettre en place et les autres nécessités pour que je puisse me faire vacciner.
Nous voulons que nos médecins et experts locaux examinent très bien ces vaccins et les étudient très bien avant que je ne sois convaincu de prendre le vaccin. En Afrique et ici au Nigeria, beaucoup de gens vivent dans une extrême pauvreté. Nous avons donc besoin de plus d'examens et plus de patience pour être sûr de la bonne qualité de ces vaccins.
Je suis ravie que l'Afrique s'intéresse également à la production pour elle-même et ne compte pas sur l'Occident pour produire les vaccins et nous les apporter. Si nous pouvons les fabriquer en Afrique, je pense que cela fera toute la différence.
Il y a une croyance populaire qui dit que le vin rouge est bon pour la santé. La découverte de sa richesse en antioxydants fait dire par certaines personnes que le vin rouge serait bénéfique pour le cœur et préviendrait certaines maladies cardiovasculaires. Est-ce vrai ou faux? Selon la clinique Mayo, basée aux États-Unis, une partie des bienfaits du vin rouge pour la santé cardiaque pourrait être due aux antioxydants contenus dans cette boisson. Les polyphénols, appelés resveratrol. Le resveratrol pourrait aider à prévenir les dommages aux vaisseaux sanguins, à réduire le cholestérol LDL, considéré comme mauvais, et à prévenir les caillots sanguins. Le resveratrol provient de la peau des raisins utilisée pour faire du vin. Les experts disent que si certaines recherches montrent que le resveratrol pourrait être lié à un risque plus faible d'inflammation et de coagulation sanguine, d'autres études n'ont trouvé aucun avantage de l'antioxydant dans la prévention des maladies cardiaques. Les médecins recommandent de ne pas commencer à consommer du vin rouge pour votre cœur, en particulier si vous avez des antécédents familiaux de dépendance à l'alcool. Ils disent que trop d'alcool peut nuire à votre corps. Mais si vous avez déjà l'habitude de déguster un verre de Cabernet ou du Pinot Noir avec votre repas, ils vous recommandent de le faire avec modération. Bien que la simulation basée sur la réalité virtuelle soit couramment utilisée dans l'enseignement médical, son utilisation dans l'enseignement dentaire est encore limitée. Deux professeurs d'université aux États-Unis veulent changer cela. Ils ont développé une clinique dentaire qui offre le potentiel de révolutionner l'enseignement dentaire. Reportage de Vina Moubadi.
Avec un casque comme celui-ci, les étudiants en médecine dentaire peuvent être immergés dans une clinique dentaire virtuelle. Dans ce monde virtuel, ils peuvent se renseigner sur les outils dentaires et même effectuer une chirurgie d'implant dentaire sur un patient virtuel.
Dans l'enseignement médical, il y a une simulation à pratiquer. Les étudiants doivent faire des répétitions encore et encore jusqu'à ce qu'ils atteignent la compétence que nous voulons. Avec cette méthode, ils peuvent apprendre par eux-mêmes à la maison, sans restriction de temps ou d'espace.
Les résultats de ces tests faisaient partie d'une étude sur les avantages de la dentisterie ARVR, publiée dans le journal de l'éducation dentaire. Bien que cette méthode ne soit peut-être pas aussi efficace que l'apprentissage en personne, les études ont montré qu'elle peut améliorer l'éducation dentaire et servir de solution alternative pour les expériences précliniques lors du confinement dû à la pandémie de coronavirus.
Fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de l'importance du bilan de santé avec Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Il est aussi doctorant en ingénierie management et inventeur d'Apollo, une application qui favorise la promotion de la santé en Afrique. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiero et de Carl Sterling, qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.